Bonjour et merci et à la BPI et au Centre Pompidou pour leur invitation à participer à ce colloque sur le thème du design graphique et de la typographie. Alors pour commencer, je voudrais rappeler deux données essentielles pour le sujet. C'est d'abord que le style s'inscrit dans le contexte de mouvements qui s'intéressent de très près à la lettre et au graphisme, qui sont le futurisme, Dada, le Bauhaus, le constructivisme et d'autres. Et d'ailleurs dont l'exposition Dada qui s'est tenue ici même a donné un exemple assez spectaculaire à cet égard. Et la deuxième chose que je voudrais également mentionner pour démarrer, c'est que les Pays-Bas sont porteurs d'une très puissante culture graphique et typographique qui se manifeste à travers tout le XXe siècle et dont le style offre, enfin plus exactement à laquelle... l'œuvre du style offre une importante contribution. Voilà, à tel point que je me faisais cette réflexion l'autre jour, que même sans ce qui est spécifiquement graphique, l'œuvre du style serait très graphique. Donc la matière est extrêmement riche. Elle est riche par la diversité de ses acteurs, où on retrouve Van Desburg, Huchard, Van der Leck, Rietveld, également Pietzwart, et puis les répercussions sur les membres du Bauhaus. Elle est riche également par la diversité des supports qui sont traités, puisqu'on trouve des revues, on trouve des affiches, des logotypes, des enseignes, des façades. Un bon nombre de ces supports, on les a déjà croisés aujourd'hui, sans compter tous les lieux, les espaces et les objets à l'intérieur desquels ou sur lesquels le graphisme vient s'installer, comme le vitrail, les tapis, le carrelage et également des éléments graphiques sur des plans d'architecture. On trouve aussi des alphabets, puisque le style s'est également préoccupé de la question de la lettre, c'est-à-dire en fait de l'une des plus petites unités graphiques. Voilà, donc comme entrée en matière, j'ai choisi de vous montrer l'alphabet, plutôt l'un des alphabets de Theo van Doesburg, qui est emblématique de la typographie du style et qui permet d'entrer dans le graphisme par la typographie. Également de commencer avec un matériau de construction. Voilà, donc cet objet graphique, si on peut l'appeler comme ça, me semble être une pièce clé de la production du style. On verra plus loin ce que Van Desburg fait avec son alphabet et d'autres aussi. Une petite précision, c'est qu'en fait, cette création, très vraisemblablement, on ne la connaît qu'à travers l'existence d'une photographie noir et blanc. Et on suppose que l'alphabet daterait de 1919, donc on est vraiment dans les débuts du style. Ce que vous pouvez noter, c'est que l'alphabet est tout en capital, contrairement à l'alphabet de Bayer qui nous a été montré tout à l'heure et qui était tout en minuscules. Et l'autre point, alors toutes les légendes le décrivent ainsi, c'est que l'alphabet est construit sur une grille de 5 par 5. Voilà, donc j'ai ici tout simplement superposé une grille pour qu'on puisse voir cette construction. Et si on regarde les différentes lettres, on voit ici avec le B, notamment sur la partie gauche, de la verticale du B, qu'en fait, la grille est un petit peu plus détaillée que ça. Ce n'est pas une grille de 5 par 5, c'est une grille de 10 par 10. Bon, je n'ai pas vérifié sur toutes les lettres, mais c'est très vraisemblable que ce soit la structure de base qui porte ces lettres. Et donc ici, ce qu'on peut voir, voilà, c'est tout simplement la manière dont ça fonctionne et dont la lettre est vraiment construite. Et cet alphabet a aussi l'intérêt de montrer... Enfin, de souligner toute la problématique de la relation, de la relation ou de la non-relation, d'ailleurs, du dessin à la construction en matière de création typographique, qui est sujet à de nombreuses discussions, voire polémiques depuis des siècles, dans ce domaine. Je vous citerai juste Moholy-Nagy à titre d'exemple sur le sujet, donc quelques années après cette création de Van Desburg, qui écrit... les lettres de l'alphabet ne peuvent jamais être forcées dans une forme préétablie, par exemple le carré. Donc voilà qui est clair. Donc voilà pour cette première pièce qu'on retrouvera plus loin avec des exemples d'applications. Alors, comme ça reste vraiment difficile en fait, de se représenter ce qu'est la perception de l'époque, comment on pouvait percevoir ce genre de création, je fais juste une parenthèse ici. pour vous montrer ce qu'est la typographie du XIXe siècle pour une large part. Voilà, ça c'est extrait de catalogue d'imprimeur, et c'est des caractères d'affiches et de titrages qui sont vraiment parmi ceux qu'on trouve de façon très courante dans le siècle qui a précédé. Donc, qui ont beaucoup marqué la culture visuelle qui a précédé. Voilà, maintenant, pour revenir à la notion même de construction, je passe rapidement sur deux exemples qui sont très marquants dans l'histoire de la typographie. À gauche, avec la construction de l'alphabet gothique par Dürer au début du XVIe siècle, qui montre très bien, à nouveau, cet effet de superposition, cet aspect combinatoire de la construction d'un caractère. Et à droite, une lettre de l'alphabet très connu, le romain du roi, enfin très connu pour la typographie, qui a été conçue aux alentours de 1700 pour l'imprimerie royale sous Louis XIV, donc avec une grille extrêmement détaillée qui, si mes souvenirs sont bons, contient 2304 petits carrés, donc à nouveau très critiqué après coup, notamment par Fournier, qui est un grand typographe du XVIIIe siècle, avec à peu près les mêmes arguments que Molinari sur le caractère de Van Doesburg. Voilà. Alors, avant d'entrer plus spécifiquement dans la production du style, au passage, je vous montre également une curiosité qui a retenu mon attention et qui montre que, en fait, la production du style soulève vraiment beaucoup de questions dans les champs artistiques, dans le champ professionnel, mais aussi qui touche à des problématiques qui relèvent plus des phénomènes de lecture et de lisibilité. Ici, vous avez des optotypes de la fin du XIXe siècle, qui sont les caractères ou les figures qu'on utilise pour mesurer l'acuité visuelle. Et ceci, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont conçus pour des illettrés, donc à gauche avec des caractères ouverts et à droite avec un jeu de rotation d'une silhouette. Donc voilà pour la partie passée. Alors, avec les débuts du XXe siècle, avec les avant-gardes, on trouve un très grand nombre de créations qui soit présentent une parenté, soit entrent en résonance avec le style. Ici, vous avez une affiche pour une exposition de la sécession viennoise du début des années 1910. Là, vous avez un exemple qui est beaucoup plus étonnant, qui est ici une carte, alors vraisemblablement une carte avec nom ou une carte de visite pour Lower X, dont vous avez la date, hein, ici, 1911, donc qui pourrait indiquer un rôle vraiment devancier des architectes en la matière. C'est une création qui vraisemblablement est faite à partir des éléments de la case typographique. Donc c'est vraiment une construction à partir de matériaux typographiques. Et donc le fait que là on soit pas tout à fait une décennie, mais en tout cas largement quelques années avant la production du style, montre bien que c'est vraiment très difficile de déterminer précisément les frontières de cette radicalité. Voilà. Alors tout ça, enfin, cette difficulté-là, elle se confirme par l'alphabet que vous voyez ici, dont la légende indique 1900, mais qui en fait s'avère être extrait d'un livre de modèles d'alphabet dont la première édition remonte à la fin du XIXe siècle. Ça, c'est un document que je n'avais pas prévu de vous montrer jusqu'à avant-hier et qui m'a été gentiment communiqué par un de mes collègues de l'ENSAD. Je pense que, en tous les cas, d'après ce que moi je peux en connaître, que c'est un exemple vraiment rare, disons, dans la relation du jeu des formes qu'on peut établir avec le style. Voilà, donc pour en revenir au style, donc on l'a déjà vu plusieurs fois, la couverture, ici vous avez la couverture qui était bien sur le fond vert au départ du tout premier numéro de la revue, qui est l'organe du groupe. Alors c'est une gravure sur bois ici de Vilmos Husard, donc avec toute la partie abstraite centrale, également le lettrage dont on suppose qu'il est de Husard, mais enfin je pense que il est pas impossible que Van Doesburg ait eu sa part, mais c'est assez difficile de savoir parce qu'en fait, quelques mois avant la revue elle-même, il y avait déjà des entêtes de lettres du style exactement avec ce titrage et avec les formes ouvertes. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est une proximité assez importante. Là, je pense plus particulièrement, encore une fois, au lettrage, au titre de la revue. Donc, c'est une proximité du vocabulaire typographique avec les recherches picturales qu'on trouve vraiment en 1916-1917. Ici, avec Mondrian, composition en ligne. Ici, avec Bart van der Leck, la mine. Et ici, avec une linogravure de Huchard, qui porte le titre « Ornement dans le style du XXe siècle ». Alors, la revue, qui donc est d'abord verticale, change d'orientation et de graphisme en 1921, où elle se trouve marquée des lettres rouges NB, donc « Nieuwe Beelding », le néoplasticisme, la nouvelle plastique, et où on reconnaît ici, en quelque sorte en germe, ce qu'on appellera la nouvelle typographie. Voilà. À droite, vous voyez un fragment d'une lettre de Mondrian à Van Desburg de 1920, qui indique une participation donc, de Mondrian à la conception du nouveau titre de la revue. Alors, ce qu'on peut remarquer dans cette revue, puisque les reprints existent, et on peut les consulter facilement, c'est que si le graphisme des couvertures est très affirmé dans les deux cas, même s'ils sont de genres très différents, quand même très marqué, ce qu'on peut remarquer, c'est aussi que la mise en page intérieure est très classique, est très loin de la nouvelle typographie, mais que cela étant, on trouve à l'intérieur de la revue des expérimentations typographiques et de la poésie visuelle, dont vous avez ici un petit aperçu, en haut avec image typographique sonore de Ika Bonset, qui est pseudonyme d'Ada de Théo van Desburg. Les deux documents en dessous sont des poèmes typoplastiques de Pietro Saga, qui est le pseudonyme de l'épouse de Frédéric Kissler, et puis le document sur la droite qui est une poésie de Schwitters. Ici, vous voyez les couvertures d'une autre revue, qui est une revue rivale, dont on a vu tout à l'heure déjà une autre couverture, la revue Wendingen, qui effectivement est opposée au style, mais qui présente certains éléments communs. Dans les formes graphiques, en haut avec une couverture, enfin l'ensemble de la couverture, vous avez la première et la quatrième de couverture, qui est une création de Vilmos Huchard pour un numéro qui est dévolu aux peintures de Diego Rivera. En dessous, vous avez une gravure sur bois de Léon Cachet. Et en bas à droite, une autre création qui est d'un certain Fritz Lenzwelt. Voilà. Et quand on regarde l'ensemble des couvertures de cette revue Wendingen, on s'aperçoit qu'elles sont, pour certaines, en tous les cas, très impressionnantes. Elles sont de styles qui sont extrêmement différents. Et on y trouve beaucoup d'artistes et de graphistes, dont Lowerix, dont Jan Sluiters, dont Jan Torop, Wiche de Velde lui-même, qui est l'architecte fondateur de la revue. Donc ici, je reviens à l'alphabet de Van Desburg, et donc avec ses propres créations qui en sont marqués. Donc quelques exemples d'applications qui montrent en fait à quel point le caractère marque ce design graphique. Voilà. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il est extrêmement identifiant, même si ce n'est pas le caractère le plus confortable, disons, du point de vue de nos standards de lecture. Donc en haut, on retrouve la plaque qu'on a également vue tout à l'heure pour une fonderie de caractères à Amsterdam, qui est un document qui a l'avantage de nous montrer qu'en fait, c'est un aspect un peu paradoxal de ce caractère, c'est que, en tout cas des caractères de Van Desburg, c'est qu'on a cette structure qui est finalement un moule très serré, et puis à l'intérieur de ça, il y a une assez grande souplesse d'utilisation, donc le caractère est variable en chasse, c'est-à-dire en largeur, hein, sur la ligne du haut, des lettres qui sont plutôt étroites, disons, par rapport au carré, et sur la ligne du bas, on voit des caractères qui semblent très élargis. Voilà. De la même manière, on voit dans une autre déclinaison, ici c'est une couverture pour un périodique pour des fabricants de briques et de tuiles. Donc on voit ici que le caractère peut aussi varier dans sa graisse, hein, puisque là, on n'est plus du tout sur une division qui serait de 5 par 5. Et puis, le document qui est très coloré, qui est, alors là j'ai eu un petit peu de mal à traduire, qui serait une maquette pour une enseigne, pour une caisse. Et j'ai trouvé quelques lignes de Van Desburg qui, dans une lettre à Oud, parle de cette création et dit « J'ai conçu quelque chose de nouveau pour lui », qui parle de son commanditaire, « une enseigne pour une caisse inspirée par deux trains rapides se croisant. C'est devenu une véritable peinture. Les lettres font partie du mouvement. Elles sont basées sur un carré. Jamais je n'avais réalisé qu'on pouvait parvenir à un rythme d'une telle qualité expressive avec des lettres. » Voilà, donc je pense que les propos de Van Desburg sont suffisamment éloquents pour parler de cette création. Donc ça, c'est pour Van Desburg lui-même. Et son alphabet, c'est ça qui est aussi un aspect intéressant de cet aspect de la typographie comme élément qui sera utilisé par d'autres. Donc Van Desburg a eu beaucoup d'influence, comme on sait, sur le Bauhaus du début des années 20. Et donc on retrouve son alphabet à l'intérieur d'un certain nombre de créations de membres et d'étudiants du Bauhaus. Vous en avez ici deux petits exemples. En haut, avec le travail de Egon Engelin, qui est un élève à Weimar, qui a rejoint le groupe de Steyl et qui a suivi le cours de Steyl, donc le Steyl Cursus, qui est un projet d'affiche pour une foire à Cologne. Et en bas, avec une carte postale pour une exposition, donc l'exposition du Bauhaus de Weimar de 1923, de Farkas Molnar, donc qui est un autre membre du Bauhaus. Alors, ce même principe de structuration orthogonale des inscriptions, on le retrouve dans d'autres créations de Van Desburg, qui, par ailleurs, production graphique assez importante. Ici, vous le voyez sur la planche en couleur, en haut, donc ici, avec des recherches pour des monogrammes. Donc, par exemple, en haut à droite, en rouge, vous reconnaissez peut-être un A accolé à un K, donc comme une ligature. Donc ça, c'est le monogramme pour son ami, le poète Anthony Koch. En dessous, en vert, le monogramme pour Oud, donc Jacobus Johannes Peter Oud. Donc on suppose J-J-O qui sont reliés de cette manière. Et tout en bas à droite, en rouge, un monogramme pour la Ligue des intellectuels socialistes révolutionnaires. Donc on devine un R sur un S avec un I vertical, enfin, je suppose, hein, à l'intérieur. Voilà. Et alors, en dessous, ça n'a rien à voir avec Van Desburg. Je vous montre simplement un ensemble de monogrammes de la sécession viennoise, qui date de 1902, c'est-à-dire pratiquement 20 ans avant les créations de Van Desburg. Voilà, ici, pour également le mentionner, mais là encore, c'était un programme de communication vraiment très riche. Quelques pièces de Van Desburg pour l'Aubette, donc ce cabaret cinébal de Strasbourg, avec le plan d'orientation de l'entrée en couleur, le grand document vertical, qui, d'après les indications de maquette, devait faire à peu près 2 mètres de haut. Donc ici, vous en voyez une reconstitution couleur à partir d'une esquisse avec des caractères en outline éclairé, dont on voyait seulement le contour, de Van Desburg, puisqu'on a perdu ce qu'on croit être un panneau, mais qui finalement n'était peut-être pas un panneau, aurait aussi bien pu être une peinture murale. Et à droite, donc toujours de Van Desburg, qui est un autre élément de signalétique, qui est un projet pour une inscription au néon. Voilà, je voudrais également, avant de voir d'autres figures du style graphique, faire à nouveau une parenthèse pour mentionner au passage, en tout cas pas l'oublier, le volet dadaïste de Van Desburg, qui est un aspect très important du sujet, même s'il est parallèle, même si il agit sous une identité cachée pour la partie dadaïste de son travail. À gauche, vous avez une couverture de la revue Mécano, dont les numéros portent le nom d'une couleur. Donc là, c'est le numéro blanc. Donc c'est une revue dont Van Desburg et le, je mets entre guillemets, le mécanicien plastique. Donc ça, c'est une notion qui est assez intéressante parce qu'elle nous permet aussi de comprendre assez bien la relation de Vandesburg au graphisme. Et à droite, vous avez un document qui est très connu dans le corpus dadaïste, qui est une affiche programme pour une soirée dada qui a eu lieu à La Haye et qui a été conçue par Vandesburg et par Schwitters. Voilà, donc maintenant d'autres membres ou créateurs apparentés au Steyl. Ici à gauche, vous voyez une affiche de Bart van der Leck, qui est un projet d'affiche pour une huile pour salade, qui est une gouache qui a en fait été un projet rejeté. Et sur la droite, vous voyez une affiche de Van Ton Gerlo pour l'exposition à Paris du groupe Cercle et Carré. Voilà, donc entre ces deux documents, il y a 10 ans d'écart. Voilà, ici, quelques créations. On revient à Vilmos Huchard. Les deux créations du haut qui montrent très clairement l'intégration de l'oblique et le travail de la couleur sur le graphisme. Et dans la partie basse, un ex libris qui montre aussi un travail sur la lettre qui est assez proche de certaines créations graphiques qu'on peut trouver chez Rietveld. Donc voici ici deux exemples. Donc vous avez en haut un faire-part de naissance qui est en fait une gravure sur bois d'un format assez petit et vous avez sur, en dessous, vous avez une affiche pour une association de cheminots où on voit très bien le lien avec les créations, encore une fois, de la sécession viennoise qui sont très antérieures. Voilà, en haut à droite, donc on est toujours avec Rietveld, et on arrive ici à la question de la façade, qui a été déjà abordée, avec son travail pour la transformation d'une maroquinerie. On savait qu'il dessinait lui-même les lettres des devantures des magasins qu'il avait la charge de remanier. Et Rietveld lui-même a pu écrire « Nous devions créer un nouveau langage des formes dans l'architecture, une nouvelle échelle spatiale, de nouvelles lettres, de nouveaux mots, de nouvelles phrases. » Voilà, donc on voit bien encore une fois cette préoccupation qui est très englobante, qui parle aussi bien de l'échelle spatiale que de la lettre. Et cette préoccupation donc, d'une plastique qui traverserait tous ces éléments-là. En dessous, on retrouve Vandesburg avec donc, le lettrage pour les enseignes lumineuses qui ont été conçues par lui pour la façade de nuit. Donc, on revoit des documents qu'on a déjà vus qui montrent que le rôle de la façade qui est assez éclatant dans cet exemple de Hood et sa réalisation pour le café Déuni à Rotterdam, où, dont Aurélien Lemonnier nous disait à l'instant que la façade finalement fonctionne véritablement comme une affiche. Et donc ça, c'est sans doute une notion qui est extrêmement importante pour ce que ces créations donnent à voir dans l'espace public, mais aussi pour ce qu'elles peuvent apporter et porter pour le graphisme. Donc vous voyez une mise en couleur, une maquette à la gouache et une photographie d'époque de la réalisation terminée du café. Et on trouve d'ailleurs dans le catalogue de l'exposition un certain nombre d'indications qui sont tout à fait intéressantes de description du projet par Hood lui-même, qui par exemple le décrit ainsi, dit les lettres sur le panneau lumineux sont blanches sur fond bleu, etc. etc. Donc il décrit vraiment ses intentions de composition de couleur. Et surtout, on trouve aussi cette exclamation essentielle de Hood à ce sujet, où il écrit « De l'extérieur vers l'intérieur, la publicité ». Voilà, donc c'est encore une fois une forme d'utilisation de toute une grande surface extérieure pour communiquer de manière très puissante, un petit peu de manière surdimensionnée. Alors, une autre donnée essentielle de ce que nous propose cette production graphique, qui est aussi importante que la question de la façade, c'est celle de la grille, par la focalisation sur une structure orthogonale et qui présente, du point de vue du graphisme en tous les cas, des rapports très étroits avec la grille qu'on peut trouver dans toutes les questions relatives à la mise en page. Donc sur le graphisme, on la retrouve, hein, cette grille, dans beaucoup de supports, par définition dans la mise en page, mais aussi, comme on l'a vu sur un caractère, mais aussi dans des affiches ou également sur des façades. À gauche, vous avez une page d'un carnet de dessins de Mondrian, qu'on peut voir dans l'exposition, avec en vis-à-vis des exemples de mise en page qui sont des esquisses du graphiste Joseph Müller Brockmann, donc sur la base d'une grille que vous voyez en haut à gauche, qui est composée de 32 carrés, ici, voilà, avec différentes possibilités de composition. Et en dessous, je vous montre simplement aussi, pour le mentionner, parce qu'il est, il est très important pour le graphisme néerlandais de cette époque, une publicité de Piet Zwart pour l'entreprise Laga, qui montre, alors c'est pas forcément exactement une grille, mais en tous les cas, c'est une forme d'organisation de l'espace qui est rendue visible et qui est très apparentée à la grille. Alors j'ai ici un autre exemple relative à toutes ces questions de grille, donc en haut à gauche avec une composition losangique de Mondrian et sur la droite des documents avec lesquels on retrouve Joseph Müller Brockmann, qui propose en haut différents gabarits. Ça, c'est un gabarit pour une annonce. Les autres sont des grilles, des découpages d'espace pour des affiches de concert qu'on peut voir en dessous en couleur. Et la petite rangée là, des documents, du document noir et blanc, sont des recherches d'organisation pour des vitrines. Voilà. Donc on a vu la question de la grille, la question de la façade, et il y a quelques exemples où on peut retrouver ces deux questions, celle de la grille et de la façade, qui entrent en résonance. Donc je vous montre ici sur ces deux façades. Donc à gauche, on retrouve Rietveld avec un lettrage, si on peut dire ça comme ça, pour un cinéma, hein, qui est fait d'une façade avec une entrée qui est couverte de verre opalin, derrière laquelle sont montées des rampes d'éclairage qui donc s'allument le soir et la nuit et qui éclairent l'inscription donc du cinéma sur le verre, donc cinéma Vreeburg, bioscope Vreeburg. Et sur la droite, qui nous permet aussi de nous approcher plus de notre époque, un projet assez récent du studio de graphisme néerlandais Loost, qui est un projet de restauration d'un immeuble des années 20 à La Haye, avec des lettres qui, en quelque sorte, font le lien entre le stèle et toute la question de la spécificité des polices conçues pour l'écran. Alors, pour m'acheminer vers la fin, je voudrais revenir aux signes et aux caractères avec des exemples qui font le lien entre le style et nous. Également pour souligner au passage le lien à la technique qui est une dimension très importante de la typographie de ces dernières décennies. À gauche, vous avez un jeu de caractères qui a été conçu par un laboratoire de physique anglais dans les années 60, et en fait c'est un caractère qui est destiné pour une lecture effectuée par des machines, donc une lecture mécanique, et qui est volontairement produit sans courbe ni diagonale. Donc ça, c'est le document de gauche, et sur la droite, donc là on est beaucoup plus près de nous, vous avez des échantillons de création d'émigrés, qui est un célèbre studio de graphisme californien, et qui en fait, là le document est très surdimensionné, il faut imaginer les lettres très petites, qui en fait est destinée à résoudre les problèmes qu'on trouve dans les questions d'affichage à l'écran, puisque pour le dire très rapidement, dans les cohorts de lecture habituels, c'est-à-dire 8, 9, 10, 11, 12, votre écran qui est fait d'une grille de pixels qu'on voit à l'œil nu quand on a une bonne vue, n'est pas capable de restituer la forme juste de caractères, surtout quand ils sont d'un dessin très raffiné avec des pleins et des déliés, et donc automatiquement se pose la question de la construction du caractère sur la base d'une grille de pixels, et c'est exactement là ce que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est qu'une déformation apparente qui est faite pour que la forme soit la plus lisse possible quand elle est affichée dans une taille toute petite. Voilà, ici, l'avant-dernier document que je vous montre, cette fois qui est une véritable renaissance numérique des caractères du style, qui sont ici produits et remis en circulation par une fonderie à Londres, qui a été fondée il y a une vingtaine d'années. Donc là, on voit bien tout l'apport possible du numérique, hein, c'est presque assez extraordinaire, puisque c'est des caractères qui existaient plutôt sous forme de dessin, sous forme de gravure, qui n'étaient même pas forcément produits. En tous les cas, dans le cas de celui de Van Doesburg, je ne pense pas du tout qu'il ait été produit sous la forme du plomb, enfin sous une forme lourde. Donc ça, c'est des caractères qu'on trouve en ligne et qu'on peut acheter et utiliser. En haut, vous avez les deux caractères de Theo Van Doesburg. À gauche, celui qu'on a vu. Donc ici, il s'intitule Archetype Van Doesburg. Archetype, c'est le nom de la collection qui intègre ces caractères-là, qui contiennent aussi beaucoup d'autres caractères des avant-gardes. À droite, vous avez l'archétype Obet, où on voit les deux jeux de signes, de chiffres complètement différents. C'est les chiffres qu'on a sur la partie basse, c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure sur le panneau très vertical coloré, pour ceux qui l'ont remarqué. Et puis, le document en bas à gauche, c'est archétype Van der Leck, puisque Van der Leck a aussi, un petit peu à la manière du titre de la revue du style, a aussi travaillé sur des lettrages et des formes typographiques avec des barres, donc des caractères ajourés comme on peut le voir ici. Donc voilà, c'est une forme de réhabilitation qui est importante. Et pour terminer, j'ai choisi un document qui est tout à fait en décalage, mais qui aussi est un retour à l'utopie de ces signes et à leur quête d'universalité. Ici, c'est un message qui a été conçu par des astrophysiciens à destination du cosmos et qui a véritablement été émis sous forme de message radio il y a une dizaine d'années en direction de différentes étoiles. Et il comporte un certain nombre de notions relatives à la biologie, à la physique, à l'astronomie et à d'autres champs scientifique, et il est formulé dans un langage logique qui se veut universel. Voilà, donc, ce qu'on peut dire de manière un peu générale, sur la place du style dans le graphisme, c'est qu'il apparaît comme un point d'ancrage et aussi comme une source d'influence majeure, et que de ce point de vue, cette production graphique, elle se présente un petit peu comme une véritable boîte à outils. On peut aussi considérer que c'est une base radicale qui, d'une certaine manière, a quelque chose de mythique, parce que l'alphabet de Van Doesburg, il habite beaucoup l'imaginaire de graphistes et parfois aussi des graphistes en herbe. C'est une chose qui est assez marquante pour les esprits. Et puis, enfin, comme effort de réduction et de construction, ces propositions graphiques ouvrent de nouvelles possibilités, à la fois en termes de combinatoire, en termes de couleurs, en termes d'intégration des arts. Et d'une certaine manière, toutes ces possibilités, elles font du style typographique un espace qu'on peut finalement dire et trouver accueillant et très porteur. Voilà, je vous remercie pour votre attention.